l'affaire Salahin et Palatin, un braqueur surnommé Jésus. L'homme n'en est pas à son premier braquage. Il a déjà été condamné par le passé et purgé plusieurs peines de prison à la maison centrale de Poissy. Au début de sa garde à vue, Salahin nie sa participation. Les enquêteurs savent qu'il ment. Ils peuvent le confondre avec son ADN. Il en a laissé, dans le véhicule qui a servi à sa fuite. Jésus est fumeur, et c'est une cigarette qui va le trahir. L'un des enquêteurs lui en propose une. Le braqueur accepte volontiers, avant de se rendre compte de son erreur. La stratégie fonctionne, il se met à parler. Il avoue avoir fait partie de l'équipe qui a séquestré la famille de l'employé. Il avoue aussi avoir tiré en direction du parking, là où étaient postés les policiers. Peut-être même que c'est sa balle qui a atteint le jeune gendarme grièvement blessé. Et si il avait également tué Denis Hogg? Lui dit que non. Il affirme avoir une morale. Il braque une banque, il ne tue pas, ne blesse pas. Pourtant, les enquêteurs en sont persuadés. Il se trouvait à l'extérieur de la banque de Thonon-les-Bains pendant que ses complices étaient à l'intérieur. C'est lui qui tenait la Kalachnikov dont la rafale a mortellement atteint leur collègue. Ils attendent des aveux, mais ils n'arrivent pas. L'arrestation de René Salahin, dit Jésus, ouvre de nouvelles pistes dans son entourage. Si lui ne donne pas le nom de ses complices, alors les enquêteurs le trouveront en fouillant dans son passé criminel. Parmi ses contacts, un profil se dégage, celui de Pierre Palatin. Les deux hommes se sont connus à l'occasion d'un séjour commun à la centrale de Poissy. Pierre Palatin a un profil particulier. Ingénieur en commerce international, il a vécu de nombreuses années en Afrique. Il a pour bagage de nombreuses compétences, dont linguistiques. Pendant un temps, le président gabonais de l'époque, Omar Bongo, l'engage même comme interprète. Puis, Pierre Palatin vrille sans que l'on en connaisse vraiment les raisons. Lors d'un séjour en Thaïlande, il se retrouve impliqué dans un trafic de drogue. Lui dit que c'est à son insu. La justice thaïlandaise est impitoyable. Elle le condamne à 100 ans de prison. Pierre Palatin demande l'aide diplomatique de l'ambassade de France en Thaïlande. Une demande d'extradition finit par être acceptée. Désormais, entre les mains de la justice française, l'ancien ingénieur s'en sort en France avec une simple peine de prison avec sursis. Pierre Palatin s'est fait discret. Sa dernière résidence connue par les services de police se situe à Saujon, en Charente-Maritime, chez ses parents. Ces derniers sont placés sur écoute. Un coup de fil passé à leur fils révèle que ce dernier n'habite plus en France, mais dans la région d'Olhão, située au sud du Portugal. Les enquêteurs tiennent à rester discrets. Ils ne veulent pas avertir les policiers portugais. Les enregistrements téléphoniques sont extraits et envoyés à un expert pour les comparer aux enregistrements du PC de sécurité de la banque de Thonon-les-Bains. Ce dernier est formel. Il reconnaît bien, parmi les voix des braqueurs, la voix de Pierre Palatin. Salahin est de nouveau interrogé sur la présence de son complice. Il refuse, encore une fois, de collaborer. Pour que l'enquête avance, il faut mettre la main sur ce Pierre Palatin. Ce dernier se fait interpeller au cours d'une visite chez ses parents. La mise en garde à vue de Pierre Palatin jette un peu plus le doute sur toute cette affaire. Lui et son complice sont tous deux interrogés dans une pièce séparée afin de comparer leurs alibis. Pierre dit qu'il ne pouvait pas être à Thonon-les-Bains ce 25 juillet 1995, puisque lui et son compagnon prenaient tous deux du bon temps au Portugal. Salahin confirme, tout en précisant qu'avant cela, il se trouvait à Saujon pour profiter de l'air marin de la Charente. Mais à trop vouloir donner de détails pour paraître crédible, il se fera prendre à son propre piège. Il ajoute qu'ils se sont rendus au casino de Royan. Les enquêteurs s'empressent de contacter le directeur du dit casino. Ce dernier leur confirme que les deux individus étaient bien présents aux tables de jeu durant les nuits du 15, 16, 30 et 31 juillet. Les dates posent problème. Il y a un trou de 2 semaines entre les deux visites. Le braquage a été commis le 25 juillet. Les deux hommes auraient très bien pu se rendre au Portugal entre le 16 et le 30 et être à Thonon-les-Bains le 25. Pendant toute la durée de l'instruction, les avocats des braqueurs jouent sur cette ambiguïté. Selon eux, d'autres éléments ne peuvent pas coller avec leur implication. Les employés ont décrit des hommes de corpulence normale. Or, Pierre Palatin est costaud. La fenêtre ne mesurant que 43 cm sur 25, elle serait trop petite pour permettre au braqueur de s'y glisser. De plus, selon une contre-expertise de l'enregistrement du micro de la banque, la bande audio est trop corrompue pour permettre de déterminer avec certitude s'il s'agit véritablement de la voix de Palatin. Enfin, toutes les personnes présentes dans la banque ont estimé qu'il s'agissait d'individus assez jeunes selon la tonalité de leur voix. Or, Palatin et Salahin ont respectivement 47 et 54 ans au moment des faits. Et si toutes ces femmes faisaient référence au troisième braqueur? Autrement dit, au deuxième homme présent dans la banque aux côtés de Palatin. Les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon finissent par l'identifier. Il s'appelle Nemat Zambas et en 1995, il a 27 ans. Ce petit malfrat a été confondu avec un ADN laissé sur une cagoule retrouvée dans un véhicule ayant servi au braquage d'une banque de Villeurbanne. Le troisième braqueur, originaire de Vaux-en-Velin, dans le département du Rhône, est trafiquant d'armes. Lors de son interrogatoire, il reconnaît avoir vendu la Kalachnikov à Palatin, dénonçant ainsi son complice par la même occasion, mais nie sa propre participation au braquage. Concernant son cheveu retrouvé sur la cagoule, il prétend qu'il aurait pu l'avoir laissé là au moment de l'échange, puisque c'est lui qui a également fourni les autres accessoires. L'explication est très approximative. Pour son avocat, on ne peut pas décemment l'impliquer dans l'affaire, puisque sa voix n'est pas identifiée sur l'enregistrement, de même que le sang retrouvé sur le sol de la banque ne lui correspond pas. Ce sera à la cour des assises de Haute-Savoie de décider de leur culpabilité. Le quatrième braqueur, le complice conducteur de la voiture, n'est pas identifié. Avant de comparaître à Annecy, René Salahin affronte un premier procès, celui du braquage du Crédit Agricole de la Ferté-Bernard. Le procès s'ouvre le 21 février 2000 à la cité judiciaire du Mans. Les quatre hommes sont tous des professionnels du crime. Tony Aubryl est un ancien mercenaire des milices chrétiennes au Liban. Il a comparu devant la justice à de nombreuses reprises pour braquage, prise d'otage et tentative de meurtre. Avant son arrestation, il était déjà responsable d'un autre casse avec un autre braqueur, également impliqué dans le casse de la banque de la Ferté, Pascal Dessailly. Tous deux, ainsi que d'autres complices, ont menacé les employés d'un centre de vente de la RATP dans le quartier de la Défense à Paris. René Salahin arrive aux côtés de Jean-François Juzot. Tous sont escortés par des policiers armés, prêts à intervenir en cas d'une tentative d'évasion de leur part. Le RAID, recherche, assistance, intervention, dissuasion, est déployé dans la salle d'audience et autour pour assurer la sécurité des débats et empêcher les tentatives potentielles d'évasion. En 1999, au moment de la reconstitution des événements, les enquêteurs ont déjà réussi à déjouer un plan d'évasion découvert au dernier moment. Un message caché par des complices avait été découvert fortuitement dans un paquet de cigarettes sur un accusé. Le procès est perturbé par une fausse alerte à la bombe, ce qui ne fait qu'envenimer un peu plus la situation. Sur les quatre hommes, deux seulement passent aux aveux. Il s'agit de René Salahin et Jean-François Juzot. Ils sont restés fidèles à leurs principes moraux, n'ont pas dénoncé leurs complices. Leur silence n'influe pas sur le procès. Tony Aubryl est dénoncé par Pascal Dessailly. Lui avoue que son appartement était destiné à servir de planque après le braquage. Les deux otages, Michel et Claude Auguste, affirment bien reconnaître Tony Aubryl, avec lequel ils ont passé une soirée et une nuit entière. À l'issue de 4 heures de délibération, le vendredi 25 février 2000, Tony Aubryl est condamné à 25 ans de réclusion criminelle, Jean-François Juzot à 18 ans, René Salahin à 15 ans et Pascal Dessailly à 12 ans. Tous les quatre sont privés de leurs droits civiques, civils et familiaux pendant 10 ans. En mars 2001, René Salahin est appelé une nouvelle fois à la barre. Le procès, qui était initialement prévu aux assises d'Annecy, est déplacé à Chambéry. Le palais de justice de Haute-Savoie a été partiellement détruit en janvier 2001 à la suite d'un attentat. La cour de justice revient sur le meurtre du sous-brigadier Hogg et reconnaît la culpabilité du trio, et ce même si l'expert en analyse vocale avoue que son rapport n'est pas à prendre comme parole d'évangile, compte tenu de la médiocre qualité des enregistrements sonores réalisés le jour du braquage à Thonon-les-Bains. Les témoignages en faveur des deux braqueurs n'ont rien donné. Palatin et Zambas sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. René Salahin, reconnu comme l'assassin du policier, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Les trois accusés font appel, mais l'issue du procès est la même. Les peines initiales sont confirmées. Cependant, 19 ans plus tard, René Salahin, âgé désormais de 81 ans, est libéré après avoir purgé 19 ans derrière les barreaux. Le doute aura fini par lui être favorable.